C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Bienvenue à tous, je voulais dire à André Mongou, c'est de la console, à Jean-Claude Ntiala. Voilà, nous revenons à notre thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention de la résurgence de la fièvre jaune. Vous savez, plus de 7 millions de personnes ont été vaccinées contre la fièvre jaune en août 2016 à Kinshasa. Selon le programme élargi de vaccination, la campagne des vaccinations a également eu lieu dans les zones de santé du Kasaï central, Lualaba, Kwango et Congo central, la zone frontalière. À l'Angola, cependant, le vaccin administré avait une durée, avait une validité d'une année au lieu de 5 ans. Alors, faut-il de nouveau vacciner la population pour prévenir la résurgence de la fièvre jaune et quelles sont les mesures de prévention à observer dans la communauté pour éviter cette maladie? On en parle avec nos invités, Rachel Izizao, experte en santé publique et directrice de l'ONG Studio des Indépendants. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir la résurgence de la fièvre jaune?
Eh bien, ici, nous avons plutôt décidé donc de sensibiliser la population, de les sensibiliser au niveau information, une information correcte, demander à la population donc de surveiller son quotidien, d'adopter son comportement par rapport à sa vie de tous les jours. Par exemple, il y a des mesures très simples à faire par rapport à son ménage, hein. Éviter donc de laisser traîner les boîtes de conserve, des chaussures, des pneus, etc. En fait, il y a des mesures très très simples pour éviter donc la propagation des moustiques ADS.
Alors, avant d'aller plus loin avec les mesures, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi la fièvre jaune et comment se transmet-elle?
Bien, en fait, la fièvre jaune, donc c'est un virus, hein. Donc c'est transmis par un moustique qu'on appelle Aedes, qui est différent des moustiques du paludisme. Donc c'est une maladie virale qui est transmise uniquement par des moustiques qui est infectée par l'Aedes. Et c'est une maladie qui n'a pas de traitement, qui devient donc une maladie chronique et jusqu'à la mort, quoi. Donc on peut que traiter les symptômes tels que si vous avez des maux de tête, vous donnez du paracétamol, ça peut aller plus loin. Si vous commencez à avoir des saignements, des hémorragies, eh bien il faudra transfuser, etc.
Monsieur Willy, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie très dangereuse, la fièvre jaune?
Affirmatif, c'est une maladie dangereuse et tueuse. C'est-à-dire, lorsque la maladie est atteinte des complications, hein, la personne est appelée à mourir. Donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment demandé à la population de savoir que chaque fois quand il y a un cas suspect, n'est-ce pas, de la fièvre jaune, sur base des signes, hein, des signes de la maladie, et il faudrait faire par tous les moyens pour orienter la personne vers les centres de santé les plus proches.
Quels sont ces signes? Rapprochez-vous de votre micro.
Ok, les signes sont les suivants. Il y a une fièvre brutale qui s'installe et persistante. Nous avons le maux de tête. Nous avons également la nausée. Hein, vous avez le vomissement et quelque part également vous allez voir que la personne va développer de la jaunisse.
Voilà. Alors, la personne va développer de la jaunisse. Alors maintenant au niveau de la communauté, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, à quel niveau doit-on intervenir pour prévenir la résurgence de cette maladie? Et surtout que le vaccin administré a une validité d'une année seulement.
Affirmatif, je crois que la question elle est pertinente. Et ce qu'il faut dire est que nous avons 4 axes sur lesquels les gens doivent fournir des efforts. Il y a également, en dehors de cette vaccination de masse, parce que ça a été fait parce qu'on était dans l'épidémie, il y a la vaccination de routine pour les enfants de moins d'une année. Hein, il y a un calendrier vaccinal qui est recommandé à tous parents par rapport à cela. Donc, au niveau des centres de santé, il y a la vaccination qui s'est faite pour les enfants de moins d'une année. Et c'est à 9 mois que l'enfant reçoit ses vaccins anti-amarie, c'est comme ça qu'on l'appelle, et en même temps.
Donc aussi, lors de la vaccination des routines, on administre déjà.
Effectivement, ces vaccins.
Ce vaccin-là
pour les enfants de moins d'une année. En dehors de la vaccination des routines, nous avons également la lutte antivectorielle. Je pense que Rachel en parlait déjà. Et à ce niveau, c'est la gestion au quotidien hein, de tout ce que nous produisons en termes des immondices, en termes des eaux usées qu'il faudrait bien faire. Donc, à ce niveau-là, dans le cadre de la lutte antivectorielle, on demande à la population de pouvoir débroussailler hein, les alentours de sa parcelle et éviter de laisser de l'eau stagner hein, autour de votre ménage. Et également, en ce qui concerne, par exemple, l'eau de boisson, la conservation de l'eau,
oui.
Il faut tout faire pour pouvoir, disons, couvrir hein, l'eau qu'on garde au niveau de la maison. Hein, l'eau qu'on garde au niveau de la maison. Et chaque fois quand on a utilisé un récipient, hein, ça peut être, par exemple, un flacon, je ne sais pas, d'une boisson qu'on a prise, n'est-ce pas? Il faut détruire ça pour éviter que l'eau ne puisse pas rester dedans. Lorsqu'il pleut, vous voyez que l'eau peut rester dans ces récipients-là.
Bien sûr, ouais.
La même chose avec des pneus qu'on voit ça et là. Il faudrait vraiment éviter que l'eau soit se retrouve dans ces pneus-là et en permanence. Nous avons également, par exemple, là où on fait de briques, hein, là où les briquetiers, vous voyez, ils sont installés presque à travers les avenues. Et il y a une manière de bien garder ces briques-là. Hein. Donc, il ne faut pas les tourner là où il y a des trous, n'est-ce pas? Il faut savoir les placer pour éviter que l'eau stagne dedans. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faudrait vraiment gérer à ce niveau-là.
Rachel, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre?
Bien sûr.
Par rapport à la lutte anti-vectorielle.
Ben, ce qu'il faut faire d'autre, il faut aussi se protéger. Donc, en fait, nous voulons tout simplement communiquer à la population des mesures très simples. Il n'y a pas de mesures coûteuses là-dedans. Donc, des mesures très simples. Donc, la journée, se protéger, puisque ces piqûres piquent durant la journée.
C'est moustique. Hein.
Oui, c'est moustique plutôt. Oui. Excusez-moi. Durant la journée. Et donc, on pourrait se protéger déjà la journée sous des moustiquaires lorsqu'on fait sa sieste, porter des vêtements à manches longues et des vêtements clairs. Bon, voilà, ce sont des mesures très simples. Évidemment, bon, on se trouve dans un pays, comme on dit, tropical. Il fait très chaud, donc on veut se balader les bras découverts. Mais là, il faudrait savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, comme c'est une maladie tueuse, donc vaudrait mieux adopter ce genre de comportement.
D'accord. Alors, à part la lutte antivectorielle, Monsieur Willy,
oui, nous avons,
quel est un autre aspect?
Oui, nous avons la surveillance à base communautaire, où nous invitons chaque individu, là où il se trouve, n'est-ce pas, de pouvoir trouver des cas suspects. Quand on parle de cas suspects, c'est juste en se référant aux signes que nous venons de donner ici. Et quand vous avez devant vous une personne qui développe ou qui manifeste ces signes, il faudrait faire en sorte que la personne puisse être orientée vers les centres les plus proches. Hein, puisque là, il sera pris en charge immédiatement et il y a des dispositions à prendre. Ce n'est pas aller ni comme ça qu'on peut d'emblée dire que la personne a la fièvre jaune, mais je crois que selon
Y a-t-il des signes qui peuvent alerter la famille ou la communauté?
Effectivement, c'est là où j'ai dit que lorsque vous avez quelqu'un qui développe la fièvre, Hein, une fièvre qui arrive de façon brutale et persistante,
oui.
C'est déjà quelque chose d'important. Et la personne fait
des maux de tête, des vomissements. Oui.
Donc quelque part, il faudrait faire en sorte que cette personne puisse être prise en charge. Et nous avons dit que c'est une maladie virale, pas de traitement. On prend en charge les symptômes.
D'accord. Alors Rachel, vous êtes directrice de l'ONG Studio des Indépendants. Alors au niveau du Studio des Indépendants, qu'est-ce que vous faites exactement par rapport à la prévention de la fièvre jaune?
Bon, c'est-à-dire que nous, au niveau du Studio des Indépendants, nous avons mis en place une stratégie de communication, surtout au niveau plaidoyer. Plaidoyer auprès des autorités telles que les bourgmestres, également au niveau de la société civile. Donc là, il y a les ONG, les réseaux de femmes, les réseaux genre, comme on dit, également les confessions religieuses. Donc nous avons réuni toutes ces personnes. En fait, on les a pris, on a organisé différents ateliers spécialement pour les 24 bourgmestres de la ville-province de Kinshasa. Donc on les a formés, on leur a donné la bonne information sur c'est quoi donc la fièvre jaune, quelles sont les mesures, etc. Et également les responsabiliser par rapport à la diffusion de ces mesures au sein de leur commune. Également, nous avons sensibilisé la société civile. Donc là, nous avons choisi différentes associations hein, pour les jeunes, les enfants, les écoles, etc.
Oui.
Idem, parce que bon, ils sont en contact direct avec la population. Et également aussi vous, les médias.
Les médias, oui.
Les médias
pour sensibiliser les masses.
Pour sensibiliser les masses. Donc on a sollicité les médias à signer avec nous un genre de contrat social pour nous accompagner dans cette campagne, pour en parler le plus possible,
oui.
Afin que les gens puissent adopter un bon comportement.
D'accord, je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir trois auditeurs. Christian nous appelle des Kananga, Jean-Claude depuis Isiro et Joseph Akindou. Nous parlons de la prévention de la fièvre jaune. Alors, vous voulez participer, n'hésitez pas, composez les 081-890-63-94.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée. Reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment prévenir la résurgence de la fièvre jaune? Christian, vous êtes à Kananga, bonjour. Christian, vous êtes en ligne depuis Kananga, bonjour. Ben, il n'est plus là. Jean-Claude depuis Isiro, bonjour.
Ah, bonjour, Radio Capi.
Quelle est votre question par rapport à ce thème?
Ok, j'ai des préoccupations. Je voulais demander à l'invité concernant l'étape de vaccination. Pourquoi on a seulement vacciné Kinshasa, ville, province? Au niveau de la province, qu'est-ce que vous avez pour proposer pour qu'on puisse vacciner tout le monde? De deux, je voulais poser la question, c'est peut-être un peu banal. Est-ce qu'on peut partager quelque chose avec celui qui garde cette maladie?
Est-ce qu'on peut partager quelque chose, c'est-à-dire manger ensemble?
Manger ensemble, les habits et tout ça.
D'accord. Joseph, vous êtes à Kindou, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, MRV, à tous les auditeurs de la radio, Capi, compris aussi à tous les journalistes. Moi, j'ai des questions à poser concernant oui. la prévention de cette maladie.
Oui.
À chaque jour, quand ma femme passe la nuit, s'il arrive la nuit, elle sent un peu de maux de tête. Chaque jour, au jour le jour. Alors, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que ça peut être la symptôme de cette maladie ou pas? Première question. Deuxième question, pourquoi la vaccination de cette maladie? Est-ce qu'on commence à quel âge pour terminer à quel âge? Est-ce qu'on ne peut jamais commencer à vacciner à partir de 0 ans jusqu'à 25 ans? Parce que c'est tout le monde qui souffre avec cette maladie-là. C'est ça des questions que je voulais poser à notre invité. Est-ce qu'il peut me donner quelques précisages concernant cette maladie? Et aussi, je voulais demander aussi, dernière question, la condition qu'on peut utiliser au cours, qu'on peut respecter pour éviter un peu cette maladie. Est-ce qu'il y a des nourritures à ne pas manger pour éviter cette maladie ou pas? C'est ça les trois questions que je voulais demander à l'invité.
D'accord, merci. Alors, commençons avec Christian depuis Isiro qui demande pourquoi on a vacciné seulement à Kinshasa, pas dans les autres provinces du pays. Et est-ce que quand on mange ensemble ou on partage ensemble avec une personne qui souffre de la fièvre jaune, il y a risque de contamination, Monsieur Willy?
Merci pour la parole. Je remercie d'abord Monsieur Christian à partir d'Isiro. C'est Christian ou c'est Jean-Claude?
C'est Jean-Claude.
Par rapport à sa première question, sa première préoccupation, on a vacciné Kinshasa. C'est parce que lorsque on est dans le cadre de l'épidémie, n'est-ce pas? L'épidémie sévit à Kinshasa, n'est-ce pas? L'épidémie sévit à Kinshasa. Mm-hmm. Et tous nous savons que tout est parti de l'Angola, n'est-ce pas? C'était des cas importés de l'Angola. Les gens qui sortaient juste pour venir chercher un traitement adéquat à Kinshasa ou dans notre pays. Et on a eu des cas autochtones. Hein? Les cas autochtones, c'est-à-dire des cas qui ne se sont pas... les cas qui n'ont pas... Les personnes qui n'ont pas habité, n'est-ce pas, l'Angola, mais qui étaient seulement à Kinshasa, qui ont attrapé cette maladie. Et en ce moment-là, on avait déclaré l'épidémie de la fièvre jaune. Mm-hmm. Et c'est Kinshasa qui était concerné, et quelques provinces, telles qu'on vous l'avait dit à l'introduction de cette émission, quelques provinces, et dans certaines
frontalières
à l'Angola. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on vaccine rien que là où l'épidémie sévit. Donc, on ne peut pas faire cette vaccination des masses à travers tout le pays.
À travers tout le pays.
Exactement. Voilà. Et en deuxième, par rapport à sa deuxième préoccupation,
oui.
La personne qui fait la fièvre jaune, est-ce qu'on peut partager à manger et tout ça ensemble?
Oui.
Je pense que je vous ai dit d'emblée ici que il est toujours demandé à ce que lorsqu'on a des signes, n'est-ce pas, on a une personne qui manifeste les signes. Sa place, c'est où? C'est au niveau de la structure sanitaire, où il doit être pris en charge. Hein, il doit être pris en charge.
Mm-hmm.
Donc, nous devons dire quelque part que la maladie n'est pas la contagion ne se fait pas d'une personne à une autre. Mais la contagion se fait d'un vecteur à une personne.
Lequel? Quel est ce vecteur?
Le vecteur, c'est le moustique ADS.
Voilà.
Qui pique l'homme et l'homme attrape la maladie. Ce n'est pas à l'homme.
Voilà, c'est pas l'homme à l'homme. Donc le fait de manger avec quelqu'un qui souffre de la fièvre jaune ne vous expose pas. Il n'y a aucun danger.
Voilà.
Alors Joseph Dekindou veut savoir, il dit chaque soir sa femme a des maux de tête avant de dormir et là tout le temps des maux de tête. Il se pose la question de savoir si ce n'est pas le signe de la fièvre jaune, Rachel.
Bah, les maux de tête ne sont pas spécifiquement les signes de la fièvre jaune. Hein. Donc là, on a dit des maux de tête brutales, persistantes, etc. La première chose à faire, c'est de se rendre chez son médecin. Hein. C'est d'aller au dispensaire et à ce moment-là, le médecin sur place pourra diagnostiquer ce qui ne va pas. Donc, on ne doit pas non plus... alerter les gens en se disant dès qu'on a des maux de tête c'est la fièvre jaune. Non. Donc une fièvre jaune, des maux de tête de plus de 48 heures, évidemment il faut se rendre chez le médecin. Bon, ici il y a d'autres signes qui doivent s'ajouter aussi, hein, la fièvre, la fatigue, les vomissements, perte d'appétit, mais bon. Et puis ça va aussi graduellement. Donc au plus tôt on aura détecté cette pathologie, au mieux c'est, parce qu'au plus ça s'installe, ça risque de toucher à ce moment-là le foie, etc.
Mm-hmm.
On a des saignements au niveau de la bouche, du nez. Bon là on arrive déjà à des phases plus avancées.
Bien. Merci à tous les internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Kota, vous, bienvenue. Patrick nous a écrit en disant ceci. Pourquoi La durée de ce vaccin a été réduite en une année, alors qu'avant on disait que ça faisait ça durait 5 ans. Monsieur Willy, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet internaute?
Je lui dirais ceci, que effectivement le problème n'était pas spécifique à la RDC. C'est-à-dire que le vaccin se faisait rare à travers le monde. Hein, parce qu'il y a toujours des fabricants qui font ces vaccins. Et c'est pendant l'épidémie, pendant que la RDC vivait l'épidémie, ces vaccins-là se faisaient rares. Et que la quantité qu'on a eue était une quantité très réduite. Et c'est comme ça que même les doses qu'on a administrées aux gens ont été effectivement réduites, hein, pour permettre à ce qu'on atteigne le maximum des gens dans Kinshasa et avoir une durée de d'immunité d'une année. Donc le problème s'est posé en termes de vaccins qui se faisaient rares à travers le monde.
D'accord. Alors on retient que la vaccination doit se faire sur 4 volets.
Oui.
Vous avez parlé, à part la vaccination de masse, vous avez parlé de la vaccination des routines. Rachel, qu'est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à cela, la vaccination des routines?
Eh bien là, donc on voudrait surtout sensibiliser tous parents. Donc dès la naissance, on sait que bon voilà, on a un calendrier à respecter pour les vaccins de l'enfant avant 1 an. Donc dans le cadre de la fièvre jaune, donc tout enfant né en RDC peut être vacciné, donc il peut être protégé avant l'âge de 9 mois.
Mmh. Nixon nous appelle des Kikwit. Bonjour. Nixon, vous êtes en ligne depuis Kikwit. Bonjour. Voilà, il n'est plus là, il va certainement nous rappeler. Alors, à part la vaccination de routine, mais il y a des mamans parfois qui ne respectent pas le calendrier vaccinal, n'y vont pas parce que peut-être, je ne sais pas si on demande de payer, ou elle habite un peu plus loin du centre de santé, doit parcourir des distances pour aller là-bas. Il y a souvent des difficultés par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Bah, je pense que c'est la responsabilité de tout parent, hein. Donc là, le système politique a mis en place la facilité donc de vacciner tous les enfants gratuitement, et donc c'est aux parents de faire en sorte de... Ils doivent être responsables en fait par rapport à leurs enfants. Donc là, les distances, etc. Oui, on peut comprendre, mais
cause des considérations religieuses, certains parents refusent carrément les vaccins.
C'est vrai. À ce moment-là, donc
il y a plusieurs barrières comme ça.
Oui, tout à fait. Nous avons rencontré cela aussi. Donc l'idée ici, c'est justement communiquer, de faire comprendre à la population que c'est une maladie grave, c'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui devient même coûteuse pour la famille, puisqu'il faut chaque fois traiter les symptômes. Ça peut durer 6 mois, voilà. Donc c'est un peu à chacun de prendre ses responsabilités. Mmh. Et puis par rapport aux mesures, aux changements de comportement que nous essayons de faire passer ces messages, déjà protéger l'enfant ou soi-même en dessous des moustiquaires, porter des vêtements adéquats à manches longues et claires, éviter de laisser traîner des boîtes de conserve ou d'autres détritus qui pourraient faire stagner donc de l'eau. Bon, déjà ça, ce sont des mesures à prendre. Bon, on peut pas non plus aller au-delà des considérations, des refus des parents, quoi. Mmh.
Monsieur Willy.
Ok, je crois que pour compléter Rachel, excusez-moi, je dois dire que le programme élargi de la vaccination, où le ministère de la Santé, dans son organisation, il a déjà résolu un certain nombre de choses. En ce qui concerne, par exemple, les distances, on demande au centre de santé qui prend en charge la santé de la population dans une aire de santé de pouvoir organiser des stratégies avancées. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des distances importantes, n'est-ce pas, au-delà de 5 kilomètres, on demande au centre de santé de faire des stratégies avancées. c'est-à-dire prendre des rendez-vous avec les communautés qui sont plus éloignées à un endroit pour faire vacciner les enfants. Et tout cela s'est fait durant le mois. Donc, il y a une planification dans ce sens-là. Donc, par rapport aux distances, il y a déjà cette stratégie-là, cette approche-là qui est déjà démise. En ce qui concerne, par exemple, le résistant ou ce qui le cas de refus, nous avons aussi une organisation au niveau communautaire. Je crois que vous connaissez, au niveau des zones de santé, on parle des relais communautaires, les réseaux des relais communautaires. Et les relais communautaires, ce sont des personnes, de volontaires, n'est-ce pas,
oui,
qui participent dans la gestion, hein, de la santé de la population avec la structure de santé, de l'aire de santé.
Qu'est-ce qu'ils font exactement, ces relais communautaires?
Voilà, donc ce sont pratiquement des personnes qui font le pont entre les centres de santé et la population. Et à ce niveau-là, ils ont des activités de sensibilisation, n'est-ce pas? Ils ont un paquet d'activités de sensibilisation qu'ils font au niveau communautaire, à travers les ménages et puis dans la communauté elle-même. Donc, à ce niveau-là, déjà, lorsqu'il y a des personnes qui refusent ou qui font de la résistance, ils y vont, justement, pour pouvoir les sensibiliser davantage. Et là, il y a plusieurs stratégies qu'on utilise. On peut utiliser une personne intermédiaire qui est en bonne relation avec la personne, juste pour les convaincre. On peut utiliser son pasteur, on peut utiliser son ami, un membre de sa famille. Et je crois que ces stratégies-là réussissent quand même. Et au jour d'aujourd'hui, je dois dire que par rapport à la vaccination des enfants, il y a vraiment ces cas-là qui sont de moins en moins diminués. Voilà.
D'accord. Esther Oubedi nous appelle depuis Yaru, Nixon est à Kikwit. Esther, bonjour.
Bonjour, Jovi. Bonjour à tous.
Quelle est votre préoccupation?
Merci pour le sujet. Je voulais savoir ce qui est en dehors des examens de labo pour pouvoir préciser s'il s'agit de malaria ou de fièvre jaune. Puisque souvent on a tendance à confondre la fièvre jaune de malaria. Alors, je voulais savoir si cliniquement, comment est-ce qu'on peut différencier, n'est-ce pas, la malaria de la fièvre jaune et puis les traitements, donc le schéma de traitement de la fièvre jaune. Puisque pour la malaria, on connaît ses génines et ses dérivés, puis les affinités. Puis comment est-ce qu'on peut traiter la fièvre jaune? C'est ça, juste ma question.
Merci. Nixon, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, allô, bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation par rapport à ce thème?
Oui, je voulais demander, donc, les signes qui montrent, non, la personne souffre de la fièvre jaune. Puisqu'on remarque qu'il y a des gens, donc, ils souffrent comme ça, même de la malaria ou comment. Mais on dit que non, on doit la donner la quinine ou, mais ce n'était pas ça, la maladie qu'ils souffraient. Je voulais demander les signes qui montrent, non, la personne souffre de la fièvre jaune.
D'accord, merci. Esther veut savoir, on confond souvent la malaria et la fièvre jaune. Alors, comment identifier la fièvre jaune et quel est le traitement approprié, Monsieur Willy?
Merci pour la parole. Je crois que par rapport à sa question, il faut simplement dire que c'est au niveau de la structure des soins qu'on fait le diagnostic. Le diagnostic est fait au niveau de la structure. Mais pour les palus, nous avons ce qu'on appelle les TDR. Donc, lorsqu'on fait les TDR...
C'est quoi les TDR?
Donc, c'est les tests rapides pour les palus. Et quand on fait ces tests-là, parce que quand on est déjà au niveau de la structure, c'est-à-dire qu'on doit prendre la personne en charge. On fait d'abord les examens des labos et partir des examens, on peut faire cette différence. C'est-à-dire, la personne qui fait la fièvre jaune, il y a des signes spécifiques. Je vous ai parlé, par exemple, de la jaunisse, n'est-ce pas? Quand il y a déjà cet état des choses, on peut faire la différence. Parce qu'avec le palu, on ne fait pas la jaunisse, n'est-ce pas? Mais les autres signes dont on a dit peuvent se confondre avec les signes du palu. Alors, à ce niveau-là,
j'ai... Maux de tête, des nausées, vomissements, oui, la fièvre brutale.
Ça peut se confondre.
Se confondre aussi.
Exactement. Mais maintenant, pour la fièvre jaune, c'est que on va prélever des échantillons. Donc, on va prendre le sang, n'est-ce pas, du patient, qu'on doit amener au niveau de l'INRBE. C'est à ce niveau-là, parce qu'il y a des analyses spécifiques qu'on doit faire. J'ai dit ici que la fièvre jaune, c'est une maladie virale. Lorsqu'on veut détecter un virus, ce n'est pas seulement, ce n'est pas à l'aide d'un simple microscope.
Il faut des examens approfondis.
Donc c'est ça au fait la différence qu'il faut faire à ce niveau-là. Mais tout se décide au niveau de la structure. C'est le personnel de santé qui a été formé pour ça, qui doit faire la distinction.
D'accord. Et Nixon parle des signes. Il veut savoir quels sont les signes.
On en avait
déjà parlé, mais vous pouvez toutefois le rappeler.
Donc, par rapport aux signes, nous avons dit ici, il y a une fièvre brutale et persistante. Donc, la fièvre persiste. Et puis, en dehors de ça, nous avons les maux de tête. Et quand on dit les maux de tête, c'est permanent. La personne souffre effectivement des maux de tête sérieux. Il y a également la nausée. Vous allez remarquer à tout moment, il a tendance à pouvoir vomir. Exactement. Et puis, en dehors de ça, nous avons également parlé de la jaunisse. C'est-à-dire...
Ça vient plus tard.
Plus tard, mais...
C'est un stade un peu plus avancé.
Plus avancé. Donc, on tend vraiment vers les complications. C'est au fait ça.
Ah bien.
En fait, c'est lorsque ça atteint le foie, quoi. Donc là, se déclare un peu la jaunisse.
Bien. Alors, par rapport à la prévention, qu'est-ce qu'on peut retenir, Rachel?
Ben, par rapport à la prévention, donc, Willy l'a dit tout à l'heure, d'abord, vacciner les enfants, et ça c'est gratuit, avant l'âge de 9 mois. L'autre prévention en tant qu'adulte, c'est aussi se faire vacciner, donc accepter ce vaccin. Et puis donc des mesures à prendre au niveau de son ménage. Donc nous, on voudrait vraiment atteindre chaque famille. Donc détruire les sources de reproduction, donc des moustiques, comme l'a dit Willy, couvrir les récipients de conservation d'eau. Donc, comme vous le savez, chez nous, avec les problèmes d'eau, donc on a des seaux d'eau dans les cuisines, dans les salles de bain, etc. Et il faut savoir que ces moustiques se développent très rapidement dans l'eau propre. Voilà. Donc, la mesure à prendre, c'est tout simplement couvrir ces seaux.
Vous avez dit aussi porter des vêtements clairs.
Oui, porter
surtout dans les zones où la maladie s'était déclarée.
Ben non, on devrait aussi porter des vêtements à manches longues partout, surtout la journée, mais même le soir aussi, donc contre le palu. La journée, porter des vêtements clairs. Donc ça, ce sont quand même des mesures très faciles à prendre, et également couper l'herbe autour de sa maison, ne pas laisser traîner les conserves, les boîtes de conserve, des baskets, des pneus, voilà. Tout ça, ce sont des pièges où stagne un peu l'eau et où pourrait se développer ce genre de moustiques. Et puis bon, on a toujours ce moustiquaire imprégné qu'on devrait posséder, utiliser chez soi.
D'accord. On parle lingala, vous parlez une langue nationale, pardon le français, vous parlez lingala, swahili, chiluba, kikongo.
Lingala.
Alors vous pouvez passer des messages à Lingala. Peut-être que Monsieur Willy va le faire dans une autre langue, Kikongo par exemple.
Non, Chiluba.
Chiluba. Ouais, allez-y.
Ah, en lingala. Bon, bien. Il faut kakabo bozala bo utiliser ba moustiquaire, pour prévenir fièvre jaune. Il faut bolataka bilamba ya ba manche ya milai.
Mba boko milai. Oui.
Basso, ya mai et tout ça, faut pour bo recouvrir yango. Bo éviter ko boaka ba boîte ya sardine, ya tomate, ba bouteille ya mai, ba pneu et tout ça.
Sinon bangungi ba ko ya wana ba bouteille ya mai.
Oui, parce que ba boîte wana en fait, sou mboula et beti ou quoi.
Mai
va inakati et eso permettre que ba moustique wana et se développer encore plus rapidement.
D'accord.
Et puis faut boyer ba que moustique, il y a fièvre jaune et pika-kaka la journée. Voilà.
Voilà, monsieur Willy.
OK, merci. Banabetu basuiboué. Ndi no ambila bwa ne disamba ji babikila fièvre jaune. Disamba jibi, disamba di shifa, disamba di pesha dikenga mu ndamwa meko etu. Bijibi kengela ne bwato tuku tujimuna ku disamba ji. Bijibi kengela ne tu sadi shabana betu bons. Badibikala ni bijimu kubangila kujile jibwa to kujijimu chimo. Mwaba na abu bapeta nani bisalu bia fièvre jaune. Et puis bwalbu kwa bumbwa ne mume kwetu tuji nchakwa ngata mapanganjika kampand. Bwatwe tuku benga buchafu. Ha, buchafu biabuni bingi mwakama mbiane mai atujitu nukunzubu aji akengele ni bifanza ni ndundu itu tutilize watu tuku teka bifinu kufamu tupabi
toa sakigila monsieur Willy bien je rappelle vous êtes monsieur Willy Kenda Nkaya, spécialiste en communication pour le développement, membre de la Task Force Communication Kinshasa et chargé des suivis et évaluations. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons également merci à Rachel Izizao, experte en santé publique et directrice et l'ONG Studio des Indépendants. Bienvenue, bonne journée.
Merci beaucoup à vos autant.